Alors, bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce premier magazine de la moto de cette année 2016. Voilà, ouais. Sur Campus Lille 106,6 ou campuslille.com. Nous vous souhaitons une très bonne année 2016, forcément, que les balades soient nombreuses, que le beau temps soit de la partie, que les rencontres vous apportent du bonheur. Et si l'on pouvait y ajouter une santé de fer, juste ce qu'il faut d'argent pour remplir les réservoirs d'essence et bien vivre, nul doute que les 12 mois à venir seront excellents pour que notre passion, pour que la moto reste intacte et nous aide à vivre ensemble. Bonne année 2016. Une toute dernière chose, que la force soit avec nous. Au menu de cette émission aujourd'hui, voilà, la question est simple, qu'est-ce qui nous attend en 2016? Voilà, avec tout, avec la participation de Christophe Tillemant. Christophe, bonjour.
Hein, bonjour, je rappelle que bonjour
à tous. Tu écris des articles pour Moto Magazine.
Voilà, puis tous les mois, on fait un sommaire. Alors, ce mois-ci, c'est un peu particulier parce qu'il n'y a pas de sortie de magazine.
Voilà.
Hein, parce qu'on est sur décembre-janvier. Mais par contre, bon, on a repris justement sur la thématique que tu viens d'évoquer tous les sujets
qui
peuvent nous intéresser.
Tout ce qui pourrait bien nous intéresser cette année, voilà. Première émission, cette année de 2016. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont apparaître, qui vont...
Oui, je vais parler du bridage, débridage des motos, enfin, sans chevaux, là, les fameux sans chevaux dont on parle depuis pas mal d'années, et puis aussi l'équipement, je ferai une petite rétro, et puis le côté innovation, qu'est-ce qui nous attend pour mieux pratiquer notre passion.
Voilà, donc Moto Magazine, Christophe Tillemant. Nous sommes accompagnés aussi de Benoît Delamotte, coordinateur Fédé Nord, région Nord 59.
Ouais, 59.
Bonjour,
ouais.
Benoît.
Bonjour à tous, bonjour à tous.
Déjà en 2015, il y a eu pas mal de choses.
Ah ouais, on a eu un petit peu de boulot.
Ici, sur la région. Hein.
Ouais,
le
ouais,
circuit
ouais.
De Lausanne.
Ouais,
on
a dû batailler ferme.
Batailler, hein.
Ouais.
Deux, trois manifs, naturellement,
ouais,
à chaque fois. Hein.
Ouais.
Voilà.
Ouais, et puis bon, tout ce qui nous est tombé dessus, tout ce qui s'était préparé, il faut savoir que on mène en ce moment l'État et le gouvernement une politique spectacle. Ils aiment bien aussi laisser mûrir les choses, pondre des choses, nous dire on va le lancer, on verra bien comment ça réagit. Si ça tombe du bon côté de la tartine, on le mettra aussi.
Voilà.
Donc on a encore un petit peu de pain sur la planche et puis on va travailler quoi, tous ensemble.
Voilà, Jean-Yves Ballois, Jean-Yves aussi de la Fédé.
La Fédé, oui, effectivement, des motards en colère.
Ne m'écris pas si fort là, tu vas te faire engueuler par Laurent. Je te le dis.
Je vais vous faire un récapitulatif de tous les bons voeux de notre cher gouvernement et de notre premier ministre en général.
Côté plutôt politique, à la critique politique. On va rester un petit peu dans le thème de la moto quand même, Jean-Yves. Hein.
Actuellement, l'ennemi du motard, c'est quand même le gouvernement.
Bien sûr.
Ah bon, d'accord.
Pour se rendre compte, et notamment le récapitulatif de toutes les mesures anti-motards qui nous pondent, je crois qu'il y a intérêt quand même à ce que les motards soient avertis et à se préparer en 2016 à réagir. Ouais.
On va voir un peu les thèmes qui vont fâcher les motards, hein, parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Il y a des bonnes choses quand même aussi. J'ai regardé la remontée d'Interfil.
La remontée d'Interfil, mais faites gaffe, parce que c'est une attrape-nigo.
Oui, c'est sur 4 ans.
C'est sur 4 ans.
C'est l'expérimentation.
C'est l'expérimentation. Voilà,
C'est pas partout.
C'est pas partout. Et dans 4 ans, nous dirons que les chiffres sont pas bons le mois d'avant, comme ça, maintenant.
Attention de ne pas se faire avoir. C'était comme le contrôle technique, normalement. C'était parti jusqu'en 2021, on n'avait plus de problème, et puis voilà quoi. Bon, Daniel Torel de la Fédé des Bikers de France, qui n'est pas là, mais qui va sans doute nous rejoindre tout à l'heure. Nous sommes aussi en compagnie de Nicolas Poiret, notre One Master à Kikinkou.
Salut Amish.
Nicolas, tu vas nous parler de cette fameuse norme Euro 6.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a le gouvernement, mais il y a aussi l'Europe. Et l'Europe, elle nous prépare, c'est normal, c'est vrai qu'il faut qu'on soit plus propre, hein, c'est vrai. Donc, le 1er janvier, c'est un changement de norme, donc on verra ce que ça veut dire, ce que ça implique. Et puis les conséquences de tout ça.
Ça fait augmenter les pots, la grosseur des pots.
Mais pas que.
Les longueurs, la diamètre et
en
tout
fait,
ça.
En fait, la grosse différence, c'est que Euro 4, ça s'intéresse à beaucoup plus de choses que les normes précédentes, jusqu'à la mise à l'air du réservoir, pour te dire. Les évaporations qu'il peut y avoir du
réservoir. Ah oui, à ce point-là. Ah oui. Le petit trou qui permet de la mise à l'air du réservoir.
Ouais.
Et donc maintenant,
c'est vachement dangereux.
Ça marche comment alors ?
Il y a des vapeurs. On met un filtre charbon actif, il faut recycler les vapeurs dans l'admission.
Enfin, 50 euros le filtre.
Voilà.
C'est complètement stupide.
C'est dingue.
C'est complètement stupide. Voilà, et puis pour terminer ce tour d'horizon, alors, tiens, une bonne nouvelle, c'est la sortie de. On va parler du premier magazine féminin dédié à la pratique de la moto et du scooter. Ça s'appelle Femmes et motards. Et avec Christine, on va en parler. Christine, tu as feuilleté ce magazine. Bonjour, qu'est-ce que tu en penses tout de suite?
Tout de suite, ce que j'en pense. Ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu. Et voilà, je vous raconterai un petit peu ce qui m'a plu dans ce premier magazine.
Donc, c'est le premier magazine. Le numéro est sorti au mois de
novembre. Au mois de novembre. Et ouais. C'est un numéro. Enfin, c'est trimestriel, en fait.
Donc, on se rend compte que, dis donc, il y a des femmes qui.
Ah oui. J'ai quelques portraits que j'ai sélectionnés.
Comment on va dire? Qui en ont?
Si vous voulez. Hein, mais quelques portraits que j'ai sélectionnés.
Ils font bien mieux que les hommes encore.
Pas mal.
Édité par Moto Magazine. Quand même.
Voilà.
Et les éditions de FFM.
Très bien. Et puis, on va souhaiter une bonne année à notre cher technicien, à notre ami Lolo.
Eh bien, merci. Et puis, Bonne année à tous, alors.
I got pigs, I got cows, I got sheep, I got all kind of animals on the train. Oh, the Rather Line is a mighty good road. The Rather Line is a road to ride. Well, the Rather Line is a mighty good road. If you want to ride it, got to ride it like you finally get your ticket at the station for the Rather Line. Jesus died to save our sins. Glory to God, we're gonna meet him again. Well, the Rather Line is a mighty good road. The Rather Line is a road to ride. Well, the Rather Line is a mighty good road. You wanna ride it, got to ride it like you finally get your ticket at the station for the Rather Line. I may be right and I may be wrong. No, you're gonna miss me when I'm gone. Well, the Rather Line is a mighty good road. The Rather Line is a road to ride. Well, the Rather Line is a mighty good road. You wanna ride it, got to ride it like you finally get your ticket at the station for the Rather Line. C, double X, Y, Z. Cats in the cradle, but you can't keep me. You know the Rather Line is a mighty good road. The Rather Line is a road to ride. Well, the Rather Line is a mighty good road. You wanna ride it, got to ride it like you finally get your ticket at the station for the ride. Come on.
Voilà pour le magazine de l'année 2016, aujourd'hui en compagnie donc de Christophe Tillemont de Motomag, Jean-Yves Ballois, Benoît Delmotte, Benoît coordinateur de la Fédé 59. Et Jean-Yves, membre du bureau. Nicolas qui va nous parler de cette fameuse norme Euro 6. Christine hein, qui va nous parler de ce nouveau magazine Femmes et Motards. C'est le premier magazine, je pense, qui est vraiment dédié aux femmes qui pratiquent la moto. Voilà. Benoît, tu vas nous présenter les vœux de la Fédé.
Les vœux de la Fédé du bureau national. Hein. Donc c'est l'heure des vœux à la FFMC, Fédération Française des Motards en Colère. Mais on ne souhaite pas. On fait, on tente, on essaye, on imagine, on rêve. Libre, égaux, solidaire et fraternel. La liberté de faire de la moto, la liberté tout court et tout entière. Ça ne se demande pas, ça ne se souhaite pas. Ça se prend et ça se défend. Alors en 2016, on la prendra et on la défendra. Tous ensemble, comme on l'a fait jusqu'à maintenant. La liberté de rouler en ville avec nos motos, la liberté de dire non au contrôle technique, de dire ce qu'on pense au Comité National de Sécurité Routière et dans toutes les instances où des gens prétendent parler de moto et de motard. La liberté de déterminer nous-mêmes ce qui est bon pour nous ou pas. Et la liberté de ne pas nous soumettre à ceux qui veulent notre bien en décidant à notre place. Et tout ça, on le fera ensemble, égaux dans les débats, solidaires dans les combats, fraternels quel qu'en soit le résultat. Et puis, bah, si finalement ça ressemble à des vœux, donc bonne année 2016 à tous, le Bureau national de la FFMC, et ça reflète tout à fait ce qu'on pense nous dans les antennes. Donc, il n'y a plus qu'à y aller, quoi.
Très bien, merci, mais merci Benoît pour ces vœux de la Fédé. Tu as encore des choses à nous dire ?
Ouais, alors il y a quelques petites infos qui sont très courtes dans le temps. Hein. La semaine prochaine, donc il y a l'Assemblée Générale de la Fédération Française des Motards en Colère du Pas-de-Calais qui va se dérouler à Billy-Montigny à 14h30, donc le 16. C'est la salle qui est juste à côté de la mairie de Billy-Montigny, ce sera signalé. Donc c'est l'Assemblée Générale. Hein. Donc c'est ouvert à tous, hein. il n'y a pas besoin d'être à la Fédé pour y aller. Si vous voulez juste des infos, si vous voulez juste rencontrer des gens, n'hésitez pas à y aller, ils vous attendent chaleureusement. Et toujours le 16, on fait aussi, nous, deux actions. Donc une action contre le contrôle technique moto à Seclin, en face du Zen, de 14h à 17h. On va faire signer des courriers qu'on va envoyer à la présidence de la République pour lui expliquer qu'on n'est pas d'accord avec le contrôle technique. Puis on fera un petit tour dans la zone de Seclin aussi. Et parallèlement, au même moment, du côté de Dunkerque, chez Motoland, il y a la présentation du MENRT, donc le Motard en Or Racing Team, qui fait la présentation de son équipe pour l'année 2016. Et on sera là aussi pour aussi faire signer les pétitions pour dire d'en avoir encore plus. Voilà. Et après, donc, un petit peu plus loin dans le temps, le 30 et le 31, il y a l'Enduropal du Touquet, hein, c'est dans 3 semaines, donc sans manquer de rien, on va y être très vite. Et là, on organise nos traditionnels relais Calmos, donc sur l'aire de Saint-Ingleverre, sur l'aire des Deux Caps, sur la 16, le 31, le dimanche uniquement à partir de 7h du matin, où on va accueillir les motards avec café, chocolat et soupe cette année, on va tester les soupes. Voilà, les bonnes soupes.
Nouveauté 2016.
Voilà, les bonnes soupes faites maison. Avec toujours un petit peu d'atelier mécanique, si besoin est, voilà. Puis surtout une information sur ce qui va nous tomber sur le coin de la figure cette année. Et nous, on sera alors la section, plus les gens de Lille, on va dire, mais qui font la même chose, hein, de toute façon. On sera à la commune du Parc, près de Croix-en-Ternois, avec les copains du Pas-de-Calais, où on fera là les deux jours. Donc le samedi 30 de 9h à 19h et le dimanche 31 de 7h à 17h. Et là, la petite innovation pour nous, c'est qu'on fait aussi le retour. D'habitude, on faisait plutôt dans le sens aller. Oui. Là, dans le Pas-de-Calais, on est très bien situé. On est sur une route qui fait très bien l'aller et le retour. Et là, on fera des crêpes, des gaufres.
Ah oui, on sent un peu seul quand on revient du l'Enduropal.
Non, mais voilà, faut surtout pas hésiter. Bien sûr. Puis on sent nous-mêmes que même au niveau sécurité, voilà, il y a des gens qui sont peut-être pas tout à fait en état de repartir tout de suite, donc ça fait des fois du bien de manger un petit bout.
Donc ça, c'est une nouveauté aussi pour 2016.
Alors pour nous, c'est une nouveauté. Ouais. Ça se faisait déjà dans le Pas-de-Calais depuis très longtemps. Nous, c'est la première fois qu'on va tester ça, mais bon, voilà, ils ont besoin de coups de main. Ils sont un petit peu pas nombreux dans le Pas-de-Calais, donc on va aller leur donner un petit coup de main là-dessus.
Très bien. Voilà. Merci Benoît. Donc on va revenir un petit peu donc sur ces mesures. Tiens, hier je me suis amusé un peu à voir un peu tout ce qui allait nous tomber sur. Alors il y a de bonnes choses. Hein, là, bon, on va commencer par ce fameux gilet jaune. Hein,
justement.
On va énumérer et après on reviendra après durant l'émission. Hein, ce fameux gilet jaune, hein, comme les automobilistes, il va falloir posséder sur soi ce
depuis
fameux
le 1er janvier.
Gilet. Hein, alors donc là, ça y est, il va falloir rouler avec des gants. Ça va pas depuis le 1er janvier, ouais, les gants obligatoires.
Ça, c'est un scoop.
C'est pas un scoop. Ouais. Non, mais si tu peux rouler à poil, mais le principal, c'est que ton casque était grand.
Hein. Ouais.
Après, le reste, tu peux rouler en maillot de bain, hein, c'est pas un problème.
Faut pas oublier que pour le gouvernement, un bon motard est un motard mort.
Ouais. Voilà. C'est ça aussi.
Après, il y a la circulation interfile, on en a parlé tout à l'heure. Bon, ça, faudra se méfier parce que c'est une expérimentation pendant 4 ans. Hein, et donc, on verra dans 4 ans.
Ça fait 20 ans qu'on l'expérimente.
Hein. ça fait 20 ans que tout le monde, de toute façon.
Imagine que ça soit interdit, donc ça veut dire que le mec en moto, il reste dans les embouteillages derrière, quoi. Il attend.
Oui, alors.
Est-ce que ça
serait imaginable?
Ça passe en Allemagne. Hein.
Mais tu ne sais pas si vous vous rendez compte, mais alors là, on parle de liberté de moto, mais c'est fini.
C'est encore plus dangereux, quoi. J'imagine un truc tout simple, mais une moto freine quand même plus fort et plus vite qu'une voiture. Tous les tests le prouvent. J'ose même pas imaginer le freinage.
Un 38 tonnes derrière.
Ou d'un 38 tonnes, qui va être surpris par la puissance du freinage.
On reparle de ce fameux contrôle technique, on en a parlé. Pour l'instant, c'est à la revente. Il faut savoir que pour les voitures, ça a commencé comme ça.
Et
2 ans après, c'était contrôle technique tous les 5 ans.
Ouais. Là, on nous tient, parce que tu es obligé de le faire, tu ne peux pas revendre. On ne peut plus boycotter comme on
l'a dit. Et là, on est tenu par les. Donc on ne peut pas revendre parce que toi, on n'a pas le contrôle technique. C'est sûr qu'en 2016, c'est dur. D'autant plus qu'il y a une grosse société qui a beaucoup d'argent et qui a beaucoup de moyens et qui fait beaucoup de lobbying.
Qui fait beaucoup de pression pour.
Il s'appelle et qui est au gouvernement et qui essaie par tous les moyens de faire passer cette loi. Hein, donc, si vous avez une bagnole, surtout, vous n'allez pas chez Descroix parce que si vous êtes motard, si vous êtes.
C'est donner du fric à son ennemi.
Exactement. Voilà. Par contre, on a autorisation de débridage. Hein. Ça, c'est une nouveauté. On ne peut pas dire que
c'est
pas bien. On ne peut pas dire que c'est pas bien.
C'est pas encore une autorisation. Non. Là encore, c'est jouer sur les mots. Ouais. On se fout de nous littéralement parce qu'on pourra débrider que les bécanes qui ont l'ABS.
Et qui sont en Euro
4. Mais l'argent, ils critiquent toujours 4. Tout, tu vois. Toi.
Ah, mais voilà,
là, je pensais que c'était une bonne mesure, tu vois, un truc positif. Et là, tu critiques,
Jean-Yves. Ah oui, parce que la majorité des motos du parc n'ont pas l'ABS. Les vieilles bécanes qui ont été débridées plus ou moins
également. Et aucune Euro 4.
Et aucune Euro 4. Et donc, moralité, on ne pourra pas débrider ces bécanes et on sera obligé, si on veut rouler au-dessus de 100 chevaux, d'acheter des bécanes neuves.
Les premières normes Euro 4, c'est il y a 3 ans, quoi. Donc, si on n'est pas en Euro 4 sans ABS.
Et alors, la très mauvaise nouvelle, c'est à Paris. Surtout, il ne faut plus aller à Paris parce que là, les deux roues d'avant 2000. Donc là, en juillet, c'est fini.
En juillet, c'est mort. Hein,
en juillet, c'est mort. Donc si vous avez une moto d'avant 2000, et attention, c'est 2000, mais d'ici un an ou deux ans, ce sera...
L'année prochaine, c'est 2000.
Ils vont être super bien formés, les flics, pour détecter ça.
Mais comment ils vont faire? C'est la question que je me pose pour pouvoir faire respecter toutes ces lois.
Ils auront un bouquin, les motos de l'année, début du siècle jusqu'à nos jours.
Bon, tu vois une 500 XT, tu te dis, bon, on comprend bien qu'une 500 XT ou une vieille...
Encore qu'il y a des 400, il y a des 400 SR neuves. Hein.
Il y a des 400 SR neuves. Les mecs, ils vont se faire serrer. Tous les 4 boutons, machin de doigts, minutes, et ils vont se faire arrêter alors que leur machine est pratiquement neuve.
Du néo rétro, vintage, ça le fait bien.
Aussi, un autre truc, c'est que l'ABS, obligatoire maintenant pour les motos.
Ouais. Oui. Mm-hmm.
Sauf que l'ABS, c'est pas gratuit. Si les constructeurs sont obligés d'aller mettre des ABS sur les motos, c'est que forcément.
Ça va doubler le prix de la bécane.
Ça va pas doubler le prix.
125,
mais ouais, ça va l'augmenter. Ouais. Ça va l'augmenter. Sauf pour les scooters où ce sera un freinage intégral en fait. Un peu la version Guzzi.
L'ancienne.
La seule bonne nouvelle qu'on peut avoir quand même, c'est qu'ils se sont rendus compte que mettre des drones sur la route pour surveiller les délits, c'était peut-être pas forcément la bonne solution.
C'est la seule chose qu'on peut dire
là, on est un petit peu...
On avait peur de se faire surveiller par en haut, en haut, déjà qu'on se faisait surveiller par en bas, et là on avait peur de se faire surveiller par en haut, donc pourtant on regarde bien, devant, en bas, mais par le haut c'est plus possible, ça voilà. Mais apparemment non, c'est trop dangereux, parce qu'ils se sont dit si jamais il y avait un drone qui était à court de carburant, donc ça marche à l'électricité. Nico, et que ça vient rentrer dans un pare-brise d'une bagnole, ce serait plus dangereux que l'inverse.
Il y a beaucoup de chasseurs, tu t'entends. Hein.
Voilà. Oui, parce qu'un chasseur un peu avec une vue un peu faible, il prend ça pour un perdreau et puis bing. Voilà. Allez, on passe à un morceau de musique et on se retrouve après.
Say
Là, le premier magazine de la moto de cette année 2016, tiens, j'avais conservé un petit peu le meilleur pour la fin, c'est l'augmentation des tarifs de péage autoroutier.
Aussi,
donc
oui.
Ça va augmenter. Moi j'avais entendu parler que ça allait baisser, au contraire, on allait baisser le tarif des autoroutes.
C'est quand même bizarre.
Père Noël est passé.
Voilà. c'est sans commune mesure.
J'avais entendu dire que le week-end serait gratuit, le dimanche éventuellement. Ce serait normal le dimanche parce qu'il y a des enfants qui sont loin de leur famille et qui travaillent dans une région dans une autre région et qui empruntent l'autoroute pour aller dire bonjour à leurs parents ou l'inverse. On peut imaginer plein de choses, quoi. Et donc ce serait normal que le dimanche on ait l'autoroute gratuite. C'est pas pour le business là, voilà. c'est pour aller rendre visite à nos parents,
faut
dire bonjour à des amis.
C'est quand même le réseau le plus sécurisé et qu'on nous
fait payer très cher.
C'est quand même le réseau
le plus
sécurisé. Il y a des travaux, on paye pareil.
Alors on nous dit il y a de plus en plus de morts, il y a des morts sur la route, ouais. Et pourquoi on fait pas utiliser au contraire l'autoroute, parce que c'est le réseau le plus sécurisé. Comment ça se fait qu'on fait pas, je dis pas gratuit, mais au moins avec des tarifs abordables?
Ça va être un cap difficile à passer, parce que pour rentrer à Paris le dimanche soir c'est quand même plus cher.
En plus.
Bon, voilà, donc en fait ça c'est notre ami Guy qui va en parler tout à l'heure au téléphone. Christophe, il nous parlait. On va revenir un petit peu sur libérer les chevaux là, oui. Libérer les 100 chevaux.
Voilà. Alors on en a parlé tout à l'heure rapidement. Donc il faut se rappeler le contexte. C'est quand même une mesure, une directive européenne qui date de 84 et que la France n'a pas levé. Donc ça fait 30 ans qu'on scoltine la puissance, le bridage à 100 chevaux. Alors dans un article qui était paru donc en cours d'année dans Moto Magazine, il replaçait un peu le contexte des années 80 avec un magazine, enfin Moto Revue, donc qui avait sorti un spécial défonce et qui avait mis, j'en parlais tout à l'heure en antenne, un concours entre le TGV et puis les motards. Ouais. Voilà. Alors il y avait eu.
C'était le motard qui avait gagné.
Voilà, il y avait eu un Paris-Lyon avec une CB 1100 Honda R et puis un Paris-Marseille KW 900 Ninja. Alors évidemment, ça faisait mauvais genre, et donc c'est à ce moment-là, vous voyez le contexte déjà à l'époque, et puis je rappelle aussi Prince Noir sur le périphérique parisien. Bon, enfin, passons. Alors, on revient en fait sur un peu l'histoire des chevaux, parce qu'en fait, quand on regarde bien sur le siècle... Donc le 20e siècle, qu'est-ce qui s'est passé? Une sportive dans les années 60, c'était 650 chevaux, 650 centimètres cubes, 50-60 chevaux. Donc les bonnes villes, hein, Nico, t'en parlais tout à l'heure. Ouais. Et puis en fait, Honda avec sa 750 en 69 sort une 67 chevaux. On passe en 73 à 80 chevaux avec la 900 Kawa Z1, effectivement. Et le cap des 100 chevaux, c'est Honda qui, avec la CB 750 en 1978. Et puis au moment où effectivement intervient ce fameux bridage à 100 chevaux, eh bien c'est juste avant la FJ 1100, la YAM 125 chevaux, la KW 900 Ninja dont on parlait tout à l'heure 130, et puis la VMAX 145. Donc et puis il va rien se passer pendant une quinzaine d'années. Ça va être ensuite la 1001 à 150 chevaux, donc la Yamaha, en 1998. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? 2015, on a 6 modèles à 200 chevaux en full power. Alors, quand on regarde l'analyse d'un essayeur chez Moto Magazine, Axel, il raconte la frustration qu'il a, en fait, quand il va sur des présentations de machines. Ça ne se passe pas toujours en France. Mmh. Les machines sont présentées full power. Et quand il revient en France, lui, il doit bien écrire pour un magazine, pour des Français, avec des modèles qui sont vendus en France. Et donc, c'est là où on voit que le bridage, il est fait de façon... Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'essayer des modèles bridés, débridés, et que vous avez perçu cette différence, mais entre...
Ça n'a pas le même caractère.
Ça dépend comment c'est fait. Ouais. Hein, et puis bon, l'injection est arrivée, maintenant on sait comment s'en fait les bridages. Hein, c'est une puce, un chintage.
Un fichier informatique.
Oui, une cartographie.
L'injection,
De toute façon, maintenant, pour 2016, c'est terminé.
Non, c'est autorisé les plus de 100 chevaux
alors,
en France.
Tout à fait.
Pour les motos neuves. Hein.
Pour les motos et scooters neufs, oui, mais sous certaines conditions encore.
Mais la majorité du parc, ce ne sont pas des motos neuves.
Oui, voilà. Donc c'est là qu'est le problème.
Quand vendredi, là, quand nous lancions le calendrier, justement, quand je suis sorti, je parlais de l'émission de ce matin. Et on me posait la question, et qu'est-ce qu'il en est ? C'est exactement le sujet qu'abordait Jean-Yves tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il en est des motos, effectivement, qui ne sont pas équipées d'ABS ?
On appelle le rétrofit.
Tout à fait.
Et économiquement, c'est une mesure qui a énormément d'impact aussi, hein, parce qu'il faut bien se rendre compte du stock de motos qui sont pas éligibles aux plus de 100 chevaux et que les gens vont pas acheter. Quoi.
Alors voilà, donc, qu'est-ce qui se passe ?
C'est tout ça.
Les gens ne pourront pas revendre leur moto parce que. Un possesseur d'une machine qui est bridée et qui peut avoir plus de que 100 chevaux ne pourra pas la vendre.
Et nous, on a eu.
Il ne va pas trouver d'acheteur.
Et le pire, c'est que même en préfecture, ils sont incapables de nous renseigner. Moi, j'ai eu quelqu'un au téléphone cette semaine avec un BMW, un K1600, qui téléphone chez BMW et qui lui dit pas de problème, vous venez chez nous, on vous fait la modification, on vous fait les documents pour la carte grise, parce qu'il faut
refaire la carte grise.
Elle est plus conforme. Donc il faut se représenter en préfecture. Donc il téléphone à la préfecture pour connaître la marche à suivre et la préfecture n'est absolument pas au courant de ce sujet-là. Ils lui ont répondu, vous êtes motard, donc vous êtes au courant. Nous, on n'a aucune consigne. Donc
Alors, Benoît, ce qui est étonnant.
Continue sur ce principe-là. On est au courant, donc c'est nous qui faisons la législation.
Alors, tu parles de la K1600, effectivement, dans l'article, elle est évoquée. Donc il y a 60 chevaux
à récupérer. 160 chevaux, quand même.
Mais ce qui est quand même étonnant, c'est que la Ducati, donc cette année, enfin l'année dernière, pas cette année, l'année dernière, en 2015, a quand même réussi à faire homologuer une 1200 Multistrada, homologuée Euro 4, et donc qui est largement au-dessus des 100 chevaux.
Mais pareil qu'Awa avec la H2R, je veux dire, ils sortent des mécanes à 200 chevaux, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire si théoriquement ces motos-là sont éligibles, mais que les autres ne sont pas, ils vont pas vendre que des H2R, quoi. Il y a bien tout un stock de Kawa qui n'est pas éligible. Ils vont en faire quoi?
Oui, alors tout à l'heure tu parlais du parc occasion. Bon, effectivement, les gens vont se retrouver avec des machines décotées. Tout se vend. Ça se vendra. Mais effectivement,
avec une valeur moindre.
Ça se vendra avec une décote. Ça, c'est clair. Donc,
moi je comprends pas. C'est qu'est-ce qui se passe. Par exemple, tu achètes une moto d'occasion en Belgique. Elle fait plus de 100 chevaux. Il n'y a plus de limitation à 100 chevaux en France. Donc, c'est bon. Comment ça marche ?
Non, ça serait trop simple.
Alors après, il y a juste...
Le problème de la carte grise.
Voilà. La carte grise belge, c'est homologué dans un pays, tu la ramènes en France, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai acheté une moto en Hollande, j'ai acheté une moto en Angleterre, il n'y a aucun souci. Hein.
Voilà.
Il n'y a pas de problème.
L'homologation.
C'est pas le bon plan pour les vendeurs.
Les
Français,
quand même. Il n'y a pas de souci.
Les vendeurs, les.
Elle vient d'un pays européen, leur moto. L'homologation est européenne.
C'est le certificat de conformité européen qui fait foi. Donc, théoriquement, oui.
Si j'ai un souci, je viendrai te voir.
Il y a juste une question que nous on a relevée aussi, c'est que la plupart des motos en Belgique sont quand même avec des papiers sans chevaux pour pouvoir permettre de payer moins d'assurance. Donc les motos sont en full, mais les papiers ne sont pas toujours en full.
Mais ça, c'est la Belgique.
Voilà, donc c'est un petit peu particulier.
Il y a une double comptabilité.
Parce qu'ils ont aussi des taxes de roulage qui sont aussi calculées à la puissance de la machine. Donc pour éviter de payer une taxe de roulage trop forte, ils ont des documents qui sont... Voilà, donc,
On termine avec ces 100 chevaux. Bon, c'est pas fait encore en 2016. Hein.
Alors, les nouveaux modèles,
ça va durer, je crois.
Euro 4, qui seront, eux, à plus de 100 chevaux. Donc ceux qui vont sortir, là, on a le droit.
Voilà. Après,
les anciens, il faut qu'ils aient forcément l'ABS, il faut refaire la carte grise, et les modalités sont pas. Il n'y a pas de modalité arrêtée pour l'instant. Donc, on laisse le flou pour.
Comment vas-tu aller installer l'ABS sur les anciennes machines?
Non, c'est mort. S'il n'y a pas d'origine, il n'y en a pas.
C'est pas possible.
Sans ABS, tu peux pleurer, ça ne marchera pas. Mais en même temps, il faut rappeler quand même qu'il y a des limitations à 130 sur autoroute en France. Donc, peut-être qu'on n'a pas besoin.
Voilà qui nous fait revenir à des choses.
Alors, sur
piste.
Sur piste, tu coupes le fil qui va bien, tu te retrouves avec tes 150 chevaux, tu tournes sur la piste.
Oui, c'est ça, si tu vas faire un petit tour sur le circuit. Quoi.
Mais après,
je vais voir un peu ce qu'elle a dans le ventre, cette machine.
Ouais. Sur la route.
T'as quand même acheté une machine qui fait plus de 100 chevaux, donc c'est un peu normal.
Puis c'est une conformité avec la réglementation européenne. C'est quand même bizarre, parce que quand c'est dans le bon sens, ils savent nous dire que c'est l'Europe, quand c'est pas dans notre sens, ça marche pas.
Et puis en France, c'est vraiment. C'est moi, c'est motophobe. La France, autant en Allemagne, en Angleterre, en Italie, au contraire, la moto. Plutôt publicité, mais la Russie, là. Bon, enfin bref, c'est fini, échange faux.
Ça nous empêche pas de rouler.
Mais ça n'empêche pas de rouler quand même. Bon, voilà.
Et d'ailleurs,
pourquoi faire à suivre encore
Non, 2016.
Plus ou moins légalement.
Parce que je voudrais pas mettre la pression, mais avec tout ce qu'il y a à dire pour 2016, on n'aura pas assez d'une heure et demie.
Le mot de la fin, on le laissera à Axel, donc l'essayeur dont je parlais tout à l'heure, hein, qui roule, lui, avec des machines qui lui procurent bien du plaisir et qui font moins de 60 chevaux, et qui dit c'est pas cette nouvelle loi qui me fera changer.
Ah, mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai pas besoin d'avoir 150 chevaux pour m'amuser. Hein. Non, mais je pense que c'est un côté de la liberté qu'on en rêve encore une fois. Obliger les gens à porter des gants, que ce soit une loi, et si jamais tu les as pas, t'as un PV, tu te fais arrêter par les flics, c'est pas normal. C'est encore un peu ta liberté quand on élève.
C'est du bon sens. Et ça va aller jusqu'où? Le problème, c'est que la majorité des motards portent des gants. Il y a des irresponsables qui en portent pas, mais de toute façon, ils sont les premiers à payer.
C'est comme si
tu disais
qu'il fallait porter un slip.
Mais faire une loi pour ça, c'est perdre son temps.
Ben oui,
c'est vrai.
Mais il faut toujours porter un slip. C'est évident, c'est une évidence.
Voilà. Ah bon?
Ça dépend en quelles circonstances.
Non, mais attends, toujours pour un slip. Franchement, faire des lois pour des conneries pareilles, ça m'énerve.
C'est incroyable.
Alors qu'il y a
c'est
des choses qu'on voit sur la route, mais bien choses à faire, mais pas ça quand même. Bon, voilà, allez, on s'emballe là. Allez, Laurent, envoie-nous un truc pour se décontracter les oreilles.
Zen.
Allez.
I'm a guitar holder on.
ce qui nous attend en 2016, c'est le menu, c'est le sommaire de l'émission. Donc on a parlé donc des 100 chevaux, ça va promettre beaucoup de manifs à mon avis. Hein, voilà. On va parler des vêtements, de ce qui arrive sur le marché. Ça évolue l'équipement.
Oui, de l'équipement en général.
Et je pense qu'on parlait de slip juste avant le morceau de musique et tu nous as dit que justement
oui,
ça aussi il y a des nouveautés.
Oui, voilà. Bah, effectivement,
dans ce domaine-là, il y a des nouveautés.
Il y a eu un article. Alors j'en avais pas parlé en son temps. Il y a eu un long article pendant l'été, donc juillet-août, numéro consacré à moto et érotisme. Bon, vous voyez déjà le sujet. Et quand la moto casse les couilles, donc ça c'était l'encadré spécifique d'un pratiquant. Oui, effectivement. Donc les risques d'accidentologie sur la moto et puis d'atteinte, aux parties du corps, corporel. Et alors justement, il y a un pratiquant d'années de judo et d'arts martiaux. Qui habitué donc au port de la coquille, nous explique que lui, il fait de la moto avec une coquille. Hein, mais bon, alors quand il regarde la caractéristique des dites coquilles, il se dit bien que quand même, en cas d'accident, c'est pas ça qui va le protéger. Mais malgré tout, c'est vrai que c'est un risque. Voilà.
C'est un risque aussi que ça devienne obligatoire.
Puisque... Merci Jean-Yves.
Alors là, Jean-Yves,
je pense que je devrais être nommé à la sécurité routière.
Je vois mal comment on peut se faire contrôler. D'ailleurs, on parlait des machines tout à l'heure à Paris. Comment les filles vont voir que c'est une 2000 ou 2001 ou 2099. Alors, imagine, comment est-ce que vous avez votre coquille? Et toi, tu dis, viens voir. Tu verras s'il y a une coquille.
Y a de plus en plus d'auxiliaires de police féminines.
Tu me rassures. Alors, voilà. Et tu disais aussi que les femmes, eux, n'avaient pas ce problème-là sur les motardes.
Oui, je vous laisse apprécier la satisfaction que les uns et les autres peuvent se retrouver sur une moto.
Ah non,
ça regarde chacun. Enfin, bon, on va arrêter.
N'allons pas donner des idées.
C'est quand même une heure de grande écoute. Il y a peut-être des enfants qui sont à l'antenne.
Non, pas sûr. Bon, voilà.
Bon, alors, on parlait de l'équipement, on parlait de l'aspect normatif. Alors, est-ce que vous vous souvenez de quand on parlait des gants, les casques? Depuis quand doit-on porter le casque?
Ça remonte à 80.
On a roulé sans casque.
Moi, j'ai roulé sans casque.
79.
73.
73.
73.
Ouais. Ah, non, qu'en 72, alors. J'ai roulé en 72 sans casque.
Voilà.
C'est bien, tu sais, tu te sens vraiment. T'as une impression de liberté quand tu roules sans casque. Ah, c'est le
bon
pied.
Ceci dit, tu peux c'est encore aller dans certains
surtout
pays.
Surtout quand tu mets ta gueule à terre. La liberté.
Je te parle de liberté. Je te parle pas de te mettre ta tronche à terre. Je te parle de liberté.
Oui, mais ça
de
va.
D'avoir le vent qui te caresse les tempes, la nuque et les cheveux dans le vent.
C'est vrai que t'en avais beaucoup à l'époque.
Et à cette époque-là, on voulait simplement rêver. On voulait simplement rêver que de liberté.
Il y a plus personne qui va rien entendre là si on parle tous en même temps. Mais si tu veux rouler cheveux au vent, tu vas dans les pays où la réglementation n'impose
j'en
pas.
J'en connais.
Bon, non, mais c'est justement, j'ai pris deux cas de figure, c'est pour montrer en fait l'évolution et puis la technologie aujourd'hui, jusqu'où ça va. Et quelquefois, le mieux peut être l'ennemi du bien. Vous vous souvenez, j'étais venu avec un casque intégral, airbag. Donc, vous vous rappelez, je ne sais pas ceux qui étaient là.
Oui.
Bon, et ce produit-là, aujourd'hui, il ne se vend plus, mais c'était un casque qui valait à l'époque pas loin de 1000 euros. 1000 euros! Et aujourd'hui, vous avez un casque également, un casque australien qui sort avec donc la coque qui s'ouvre par l'arrière pour en cas d'accident. On est à peu près dans les mêmes prix. Je pense que c'est un peu moins, mais c'est effectivement peut-être que c'est techniquement très bien, mais il y a aussi une économie de marché qui fait que on vend.
Ce serait pas du business ou ça quand même.
Alors probablement. Ah. On a un spécialiste là qui nous avait expliqué le coût des fabrications, le marché de gros. Des casques, voilà. Bon, non, mais pour l'évolution des casques, donc on parlait obligation donc en 1973, le premier jet, vous vous souvenez, 1954, et la marque, un américain,
Bell.
Voilà. Ouais. Et Bell qui s'est distingué également quelques années plus tard, donc en 1967, en sortant l'intégrale. Première intégrale. Contre, le modulable.
Moi, je suis désolé, mais dans le calendrier, il y a une photo et c'est un pilote, c'est du Continental Circus. On appelait ça le Continental Circus, maintenant on l'appelle un peu moins. Mais donc, il roulait, les pilotes roulaient avec un cromwell.
Ah oui, le cromwell.
Et sur le casque, il a un kangourou. Et forcément. Exactement, Jean-Yves, forcément. Et c'est un Australien. Et ces gens-là roulaient à l'époque à moins de 200 quand même, avec des motos peut-être de 80 chevaux, mais avec des freins qui étaient plus ou moins, et des pneus plus ou moins adhérents. Voilà. Et bon, à l'époque, bah, ces gens-là roulaient avec un casque, un Cromwell. Et puis, c'était tout simple.
Oui, alors bah, sur les casques, justement, donc, je vous parlais du modulable. Alors le modulable, là, c'est BMW qui l'a lancé. Hein, ça date, c'est plus proche, 1981. Donc là, c'est européen, c'est pas américain. Et puis aujourd'hui, puisque je vous ai dit que j'allais parler d'innovation, bah, vous savez que le bruit est l'ennemi du pilote de moto. On cherche toujours à avoir un confort d'utilisation, donc en diminuant les émissions de bruit perceptibles à l'oreille. Et donc, on a sorti. Pardon ?
On n'a pas les mêmes copains.
Ah. C'est pour ça que tu roules électrique.
Chacun sa pratique. Non, mais c'était moi, simplement bien, pour vous parler de l'innovation.
Mais a... moi, j'aime bien entendre le bruit du moteur. Quand je roule, je suis à l'écoute du bruit du moteur, de tout ce qui se passe. Il va y avoir un petit clic-clic. Tiens, qu'est-ce qui se passe ? Bizarre. Ou...
Ouais, mais ça, c'est le bruit de la moto. Oui. Mais les mesures de niveau de bruit des casques au niveau confort, c'est la perception qu'on a par rapport à la vitesse. C'est en fait le...
Donc c'est l'air qui vient
exactement
frotter sur le
casque. C'est le bruit du vent qui est mesuré. Ouais. Hein. Et donc il y a un fabricant qui a sorti un modèle avec un contre-bruit. Donc le bruit que tu le bruit. c'est effectivement...
Et ça coûte 2000 euros.
Alors, je ne sais pas, je ne l'ai pas là-dessus.
C'est à peu près...
Parce que, alors, voilà, il va falloir qu'on termine, hein, Christophe, parce que déjà, tu prends mieux ton temps.
Déjà, tu nous as embarqué sur la...
parce que, la moi, il y a encore pas mal de trucs à dire. Ouais, et en fait, il y a un truc qui nous pend au nez, et équipement obligatoire, je le vois arriver gros comme une maison, c'est les airbags. Mmh. Hein. Ça, pour l'instant, c'est pas tout à fait encore au point. Mais à mon avis, dès que ce sera vraiment, ça va devenir un truc qui marche bien, on va nous l'imposer, ce truc-là.
Alors, il y a quand même une avancée sur les vêtements, c'est que maintenant il y a des normes, et donc on ne peut plus vendre comme vêtements motards des vêtements qui ne protègent plus. Il y a une norme EPI qui stipule le niveau de protection pour chaque vêtement dit moto. On ne peut plus vendre des trucs qui protègent
pas. En 75, on roulait avec des barbours. On allait à Londres, on allait acheter 10 barbours pour faire l'année parce que ça avait tendance à. Les poches, elles avaient des trous. On prenait 10 barbours. On roulait avec ça. Hein.
On roulait avec ça, ça nous protégeait de la pluie.
De la pluie.
Et on dégageait une bonne odeur d'huile.
De graisse. Ouais, on graissait.
On savait qu'on était en tribu, on se reconnaissait.
Et quand on mangeait des frites à la mayonnaise.
On s'essuyait sur le barbeau.
Quand on avait plein de mayonnaise à ses mains, qu'est-ce qu'on faisait ? On passait ça sur le barbeau.
On n'avait pas à prendre la flotte.
Et là, on savait qu'on avait graissé. Voilà, comme ça. Hein bon, ça c'était fabuleux quand même.
Nico, t'as raison. La norme,
ça coûtait 15 balles,
un barbeau. Est venu. Paradoxalement, je lisais donc dans l'article sur l'histoire justement des normes des équipements. Paradoxalement, les normes sur les chaussures n'existent que pour les chaussures professionnelles. C'est à croire que le motard amateur, il n'est pas concerné. Bon, enfin, c'est pas grave. Et on tend, mais je pense que Christine en parlera aujourd'hui, à ce que les équipements motards soient de plus en plus entre guillemets sortable, c'est-à-dire vestimentaire pour la ville, la chaussure même qui se rapproche.
Le moteur ne fait le moteur de 2016 ne fait plus, ne roule plus comme avant, comme
en barbeau huilé.
On allait en concentre, on allait aux élèves, on allait en hivernal, on roulait, on faisait 70 000 bornes par an, on roulait
mais c'était avant.
Mais c'était avant, voilà. L'essence était 90 centimes, c'était en francs. Hein. Voilà, et puis il y avait du boulot pour tout le monde. Les jeunes, ils avaient du boulot, donc ils avaient du pognon. Et maintenant, ça a bien changé tout ça.
Il faut juste revenir aussi un petit peu sur ce qui est tombé. C'est-à-dire que le décret d'obligation de port des gants homologués, je le rappelle, hein, donc il y a peut-être des gens qui roulent avec des gants, mais qui ne seront pas homologués, et donc qui sont déjà hors la loi. C'est quand même applicable à la première quinzaine de janvier. Et c'est fait pour les scooteristes urbains et les motards du dimanche et des plages. Donc ils vont chercher loin quand même.
Des plages, en plus.
Il y a des motards des plages, mais qui, même si eux vont voir mettre que le gant.
Ah, ouais.
Que les gants. Bon. Donc,
Enfin, on va en matière d'équipement, alors que tu parles des gants, mais c'est valable aussi pour tout ce qui est veste et pantalon. Donc les textiles, les caractéristiques aujourd'hui des produits. Tout à l'heure, tu parlais des barbours, il y a les cuirs, le Codura, qui est quand même un textile qui date de 1929, le Gore-Tex 1969. Et donc aujourd'hui, tous ces produits-là permettent de sortir des équipements résistants, confortables.
Maintenant, à des coûts tout à fait abordables. Nous, on avait, il y a très peu de temps, fait avec Dafy par exemple un partenariat pour les citer, et à 500€ on avait un équipement complet, casque, blouson, gants, bottes, dans des matériaux qui étaient résistants, quoi. Donc bon, c'est plus non plus très cher, il y a du très cher mais il y a aussi du abordable.
Bon, pour terminer.
Vas-y. Oui.
Tu parlais des airbags tout à l'heure.
Oui.
Autant le Cromwell, c'était les parachutistes donc pendant la guerre.
Et le barbour, c'était les pêcheurs.
Les barbours, ou les chasseurs.
Les chasseurs.
Voilà, tout à fait. Et les airbags, c'était en fait pour les gens qui pratiquaient l'équitation. Donc 1995, pardon, et 1998, donc premier airbag moto. Donc avec la suite qu'on connaît. Alors. Est-ce que ça te donnera
la suite qu'on connaît pas, on n'a jamais vu personne rouler avec ça.
Disons que ça se fait discret. Maintenant, sur les salons, t'as toujours des fabricants qui sont là et qui présentent leurs produits.
Voilà, bon, bref, on va conclure. Bon, après, on va plomber l'atmosphère parce qu'on va vous expliquer pourquoi il ne faut plus prendre l'autoroute, parce que ça coûte trop cher. De toute façon, c'est simple, il faut rouler sur la route et donc forcément, ça va augmenter le nombre de. T'es pas forcément toujours tué.
Non, tu peux avoir un accident.
Juste après le morceau de musique.
Allons-y.
Bonjour Guy, bonjour. Oui, alors Jean-Yves, non, mais alors écoute, je sais que tu... Attends encore 5 minutes et ce sera à toi. Guy, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
D'abord, on te souhaite une bonne année.
Bah, tout pareil.
Et une très bonne santé. Je rappelle aux auditeurs que tu étais notre ancien motard luttant, hein, pendant des années. Tu es venu tous les mois nous dire un peu de tout ce qui se passait. C'était généralement des mauvaises choses, hein.
Oui, bah oui.
C'est toujours. Et là, c'est pareil. Tu vas nous parler de ces fameux tarifs de péage autoroutier qui vont encore augmenter en 2016.
Alors, je vais essayer de faire court et simple. Donc, dans la presse, vous avez pu le voir, notamment La Voix du Nord et ici, L'Union, enfin, etc. On prévient d'augmentation de tarifs de 0,82 à 1,63%, les tarifs autoroutiers, bien entendu, hein, c'est notre sujet. Alors que l'inflation, elle est quasi nulle. Donc on nous annonce déjà ce qui va se passer. Alors, petit rappel, vous vous souvenez, pour ceux qui suivent l'émission, que en 2014, il y avait eu un grand émoi chez les citoyens consommateurs ou consommateurs citoyens et motards. On apprenait que l'autorité de la concurrence, donc des organismes officiels, l'autorité de la concurrence, la Cour des comptes et puis d'autres associations, dénoncer la rente que détiennent les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Sur la période 2007-2013, soit 6 ans, leurs bénéfices cumulés de ces sociétés concessionnaires d'autoroutes atteint le niveau de 9,3 milliards d'euros.
C'est énorme.
C'est énorme. Et donc, le niveau de rentabilité, en gros, affiché officiellement lors d'une émission radio par le responsable de Vinci, parlait de 8%. Je vous rappelle pas que depuis plusieurs années, on est aux environs de 1% pour le livret d'épargne. Eux, c'est 8%. Donc on pouvait s'étonner, et personnellement, j'avais cru vraiment que ça allait changer, mais j'étais encore trop naïf, parce que tout était contre eux. Et Manuel Valls, est passé derrière en fin décembre 2014, donc, en créant, comme on sait le faire dans les hautes instances, un groupe de travail. Et il y avait une proposition de loi en novembre qui précédait, déposée par Chassaigne notamment, un député, hein, qui voulait renationaliser les concessions d'autoroutes. Manuel est passé par là, groupe de travail, et en mars, conclusion du groupe de travail, on blanchit toutes ces sociétés concessionnaires d'autoroutes.
Bah tu m'étonnes, c'est les on potes, hein. Ils se connaissent tous, alors forcément, ils mangent ensemble.
Voilà. C'est incroyable.
Et ils touchent ensemble.
Voilà,
ils touchent, hein.
Ouais. Ils se touchent.
Alors, c'est forcément.
Et pour tenir le délai, hein, qui lui est imparti, je vais essayer d'aller tout de suite à ce qui va se passer. La FFM et la FFMC, bien sûr, travaillent aux côtés du think tank, ça s'appelle comme ça maintenant, hein, Automobilité et Avenir. Et Automobilité et Avenir, il y a aussi l'Automobile Club des Avocats. Et donc, ce regroupement d'usagers et de personnes qui essayent de faire changer les choses, eh bien, ont déposé une nouvelle fois au gouvernement plusieurs recours pour essayer d'avoir des informations. Parce que non seulement on nous met un soi-disant groupe de travail qui réfléchit et tout ça, mais il n'y a pas moyen de savoir ce qui se passe derrière. Et donc, ce think tank, comme on dit maintenant, a déposé un recours contre le décret 2014-1341, hein, voyez, du 6 novembre 2014, qui permet prolongation des concessions autoroutières, alors que normalement, au départ, dès que les autoroutes étaient remboursées, ça devait basculer dans le giron public, en fait. Donc recours contre ce décret, recours introduit le 8 janvier auprès du Premier ministre, introduit le 7 mai, donc 2015, hein, j'entends, donc introduit le 7 mai au Conseil d'État, recours contre l'avis de la Commission européenne, parce qu'il ne faut pas oublier que la Commission européenne a aussi un nez dedans, comme dans beaucoup de choses, vous en avez parlé tout à l'heure à d'autres sujets, mais là aussi ça marche, donc recours contre la Commission européenne du 28 octobre 2014, saisine du tribunal de l'Union européenne le 5 juin 2015, et recours contre les trois décrets, pardon, je vous les cite pas, donc il y a quelque chose qui est engagé contre ce comportement des sociétés d'autoroute, où, pour conclure, donc, on rappelait qu'en 6 ans, ils avaient fait 9 milliards d'euros. Alors, pour donner d'autres exemples concrets, j'aime bien, Vinci, par exemple, qui est un groupe que vous connaissez forcément, Vinci est une maison mère, bien évidemment, et puis il y a Vinci Autoroute. Alors, on fait en sorte que Vinci Autoroute ne soit pas bénéficiaire, et pendant ce temps-là, c'est la maison mère
qui récolte le
pognon, c'est comme d'habitude. Mmh. C'est comme d'habitude. Bien. Voilà comment ça se passe.
Qu'est-ce que tu penses de l'idée de rendre éventuellement l'autoroute gratuite le dimanche?
Mais vous l'avez dit, hein.
Le dimanche, ce serait une bonne idée.
J'écoutais. Mais oui, c'est là où il y a le moins d'accidents. Donc, pourquoi on va faire payer? Et en plus, on fait payer largement au-delà de la rentabilité. C'est vraiment un comportement capitalistique, quoi. Et donc il faut qu'on se mobilise. Bon, Benoît et puis toute l'équipe, hein, bon courage, j'ai entendu.
Merci Guy, merci.
Mais là, il est complètement. Ça y est. Ouais. Là,
voilà. Et il faut faire.
Il n'était pas très en forme, mais alors ça, tu l'as tué, là.
Non, voilà. Sous la table. Non, je laisse parler Guy.
Ouais, il faut faire savoir qu'il n'y a pas que la FFMC, parce que quand on lit sur les blogs, effectivement, la FFMC fait rien, ça fait 30 ans qu'on roule en double fil, etc. Bah oui, mais il faut faire bouger les choses. Et la FEDE, il faut faire savoir aussi qu'elle agit avec d'autres.
Ouais.
Et donc, il faut faire corps avec tous ces groupes, toutes ces personnes qui ont un minimum de sensibilité citoyenne. Et il faut le faire savoir, et il faut faire en sorte que les gens bougent. Et quand on demande d'écrire aux députés, ben, il faut qu'on le fasse. Ouais. La fois dernière, je rappelais qu'il y a des lobbies au niveau de l'Europe. Nous, on a malheureusement que la FEMA. Qui, en gros, j'exagère à peine, mais c'est deux personnes.
Ouais.
Et donc, il faut qu'on se bouge le cul autrement, quoi. Voilà. Parce qu'eux, ils ont 40 lobbyistes qui sont payés à faire que ça et qui n'ont qu'un sujet. Et donc, forcément, ben, ça, ils ont plus de poids que nous parce qu'ils ont du pognon derrière.
Très bien, voilà. Guy. Bah, écoute, on te remercie de cette première intervention, de ce premier magazine de la moto 2016.
Voilà. Et puis, courage.
Et puis, rendez-vous le mois prochain.
Ça marche. Ciao. Bon dimanche.
Bon dimanche.
We'll be right back.
Voilà, on va continuer avec toutes ces mesures obligatoires qui vont entrer en vigueur. Là, ça y est, c'est fait. On est le 9. Donc Jean-Yves, le gilet jaune.
Alors justement, je vais vous parler.
Faut pas le porter, hein, il faut l'avoir sur soi.
Oui.
Alors où on sait pas.
Où c'est à portée de main.
Il y a donc, Daniel qui dit tu peux le mettre dans le slip, comme on parlait tout à l'heure de slip, hein, si tu prends une taille au-dessus.
Non, mais le truc aberrant dans cette histoire, c'est que, mettons un cas tout à fait ordinaire, vous vous faites percuter par une bagnole. Elle vous casse la jambe et un bras. Et donc, vous êtes éjecté de votre moto. Le flic arrive, il vous aligne 135 euros d'amende parce que vous n'avez pas mis votre gilet jaune.
Déjà, t'es mal parce que t'as un bras et une jambe de cassé. Et le mec, il t'aligne, il dit allez, ce sera 30. Alors tu dis voilà.
Et donc, alors que le pire, c'est que si tu n'as pas ce fameux gilet jaune, l'amende n'est que de 11 euros. 17 euros. Alors, par contre, si vous ne l'avez pas parce que vous êtes cassé la gueule, c'est 135. Alors, cherchez l'erreur, je vous en dirai pas plus. Une petite nouvelle en passant, il y a un changement de terme. Le bras armé de notre premier sinistre ne s'appelle plus sécurité routière, mais insécurité rentière. Insécurité,
voilà. Parce que. C'est le nouveau slogan pour 2016. Tout.
Voilà.
Là, tu profites pour lancer voilà. Nouveaux,
justement,
c'est les grands titres, un truc qui percute, quoi.
C'est les vœux de notre gouvernement. Donc... Alors, insécurité, tout le monde comprend, parce qu'il n'y a plus d'investissement dans les infrastructures, etc., etc. Et rentière, parce que ce qu'il faut, c'est faire rentrer du fric. C'est pas la sécurité qui intéresse les gouvernants, c'est faire rentrer du fric. Voilà. C'est ce que je voulais dire et je laisse la parole donc à Christine.
Alors, Christine, allez.
Alors, donc à moi. Donc,
s'agit de quoi ?
Il s'agit du premier magazine féminin dédié à la pratique de la moto.
Alors, fais-nous voir un peu.
Et du scooter.
Nous, l'avantage, c'est qu'on a les photos là sur le. Ah, c'est. Voilà.
Alors, tout d'abord, sachez
une belle motarde.
Qu'en 70, seulement 1,55% de femmes sont titulaires du permis moto. Et aujourd'hui, nous sommes 14%. Et si on y intègre les utilisatrices de cyclo, les scooters, le pourcentage s'élève à 27%. Et ça fait qu'augmenter. Donc évidemment, les constructeurs et les équipementiers sont conscients de cette tendance et commencent sérieusement à se pencher sur la question. Donc ce numéro 1 de la femme motarde met en lumière cette féminisation du monde des roues motorisées au travers de conseils pratiques, de pages de mode, évidemment, d'essais de machines, mais aussi de portraits et témoignages passionnés. Vous trouverez aussi deux pages de la première BD consacrée à une jeune motarde, Miss Harley. Alors, moi, je vous ai sélectionné trois portraits. Celui, donc, de Fabienne Sainte, je ne sais pas si vous connaissez, qui prend le micro tous les matins sur la matinale France Info. Donc, Fabienne Sainte se rend tous les matins à son travail vers 2 ou 3 heures du matin. En moto sur sa BMW R1200C,
non.
Monsieur. Oui.
Incroyable ça.
Et elle dit que c'est la.
Attends, c'est pas une moto de gonzesse. Oh, ah non, pas du tout.
Et elle dit que c'est la plus belle moto de Paris. Donc malheureusement, au 1er juillet, elle devra la laisser au garage,
voilà.
Car sa moto est de 1998. Et donc, elle est donc bien touchée par le plan
anti-pollution
de Paris. Un autre témoignage, portrait, quand, une fois que vous avez parcouru les pages de mode et sur les scooters, c'est celle d'une sacrée motarde qui est la meilleure stunteuse au monde, Sarah Lesito, une jeune femme de 23 ans qui est devenue cascadeuse professionnelle et qui a été repérée par des producteurs de cinéma et elle vit dans la région de Reims, messieurs. Et pour terminer, un autre portrait, celui de Nathalie Bettelli, première féminine en Europe à remporter un championnat moto mix. Elle a été aussi en 2004 championne de France en championnat pro classique Unlimited. Et aujourd'hui, elle a été nommée directeur technique d'une école de pilotage de moto.
Et Christine, tu nous as dit aussi que faire de la moto, pour les femmes, ça empêche d'avoir le cancer du sein.
Non, c'est pas du tout ça. Il y a un article sur deux personnes, deux femmes qui sont atteintes du cancer du sein et qui ont repris la moto, qu'elles avaient laissé la moto depuis longtemps. Elles ont repris la moto et grâce à ça, ça a aussi permis de leur redonner du plaisir.
C'est bien ce que je viens de dire, je suis désolé, mais
c'est
moi qui rigolais, mais moi, je suis très sérieux. Non, c'est vrai.
Mais non, elles avaient déjà le cancer du sein. C'est pas.
Non, mais ça guérit. Ça
aide à passer ce cap très difficile.
Je vais peut-être pas utiliser le bon mot.
Voilà.
Mais au moins, j'étais bien dans le
plaisir. Ça donne du plaisir.
Et si je peux me permettre, pendant qu'on y est, moi, je voudrais juste faire une petite croix sur le calendrier. Le 5 mars, la balade de toutes
Flechti à moto, là on a sûrement l'occasion d'en reparler. Mais n'hésitez pas à venir, c'est super sympa et c'est vachement bon.
Et donc ce premier numéro, j'ai vraiment eu plaisir à le lire. Bon, c'est sûr que Miss Harley, elle commence un peu durement son apparition, se faisant malmener par un grand costaud pas très souriant de chez Harley.
Ça, c'est les mecs en Harley.
Mais cette revue, c'est un bon début pour mettre en avant la moto féminin. Donc vous la retrouvez dans les kiosques tous les trimestres, soit du côté des journaux féminins, ou soit des magazines motards.
Ben oui, j'ai acheté
deux magazines. Un que j'ai offert à une amie, donc je l'ai trouvé dans la partie moto. Et là, hier, j'ai été chercher un autre revue. Et là, je l'ai cherché. Et en fait, non, il était
dans
du
la partie moto. Et il n'était pas dans la partie
pas
moto.
Pas du tout. Il était dans les magazines féminins.
Vogue voilà. Et machin.
Voilà. Donc,
je peux pas dire la couverture, ça fait très femme actuelle quand même.
Et femme actuelle.
Mais le contenu, il est vraiment sympathique.
Bon, un bémol près quand même, c'est l'horoscope.
Non, l'horoscope.
Là, franchement, j'ai pas saisi. Alors, c'est peut-être de ma faute. J'ai pas saisi que c'était du second degré.
Non, l'horoscope est à prendre au second degré. Il est très bien fait, très amusant.
Troisième degré.
Il est ouais, moi, troisième degré, mais il est très amusant.
Je suis désolé, mais on va attendre les autres parce que.
Oui, je sais que vous attendez.
Il faut tenir la route hein, pour un
magazine
comme ça.
Mais
hein.
Je suis sûr qu'il y a encore plein de femmes motards qui font plein de choses.
J'espère que vous
avez
vous écoutent parce qu'il va falloir tenir la route et on les attend les prochains.
C'est les
on
verra. Éditions de FFMC, mais pourquoi ils ont l'habitude de se battre aux éditions.
Ouais.
Ils vont se battre.
D'accord.
Et ils vont le faire marcher.
Très bien. On passe à un morceau de musique ou on parle Norme.
Comme tu veux, la miche.
Allez, Norme. Non. Musique. Musique.
Allez.
Musique. on va parler normes. Alors, on ne sait plus trop. C'est Euro 4, Euro 5, bientôt Euro 6. Alors, Euro 6, c'est pour les voitures, voilà, Nico. Donc,
les voitures
là, on est Euro 4. Hein.
Sont Euro 6. Ouais. Et si on en parle, c'est parce que depuis le 1er janvier, il y a un changement. Toutes les nouvelles motos, donc les nouveaux modèles homologués, doivent obéir aux normes Euro 4. Les anciennes motos qui existaient déjà avant, donc en 2015, elles sont Euro 3, elles peuvent rester Euro 3 jusqu'à 1er janvier 2017.
La rétroactivité qui est prévue, c'est-à-dire les machines qui sont sorties d'avant, elles ne doivent pas être conformes.
Si, il faut qu'elles le soient au 1er janvier 2017. Donc elles n'ont plus qu'un an pour le devenir. Donc, ou alors elles disparaissent. Elles pourront plus être vendues. Toutes les motos actuelles qui étaient.
Tant que tu la possèdes, ça va, mais tu ne peux pas la vendre.
Non, c'est pas ça. Pour être vendu comme, neuf, comme moto neuve.
Ah oui, comme moto neuve. Hein,
on parle de moto neuve. D'accord. En fait, ça marche avec ça. Ouais. Donc les motos neuves, nouveaux modèles, doivent obéir désormais, d'ores à présent, à Euro 4. Et puis les anciens modèles ont encore un an pour devenir, ceux qui sont déjà sortis, qui sont déjà homologués, qui ont déjà un certificat, ils devront, au 1er janvier 2017, être conformes aux normes Euro 4 ou disparaître. Donc ça va faire un gros changement. Et donc on va voir un petit peu Euro 3, donc la norme précédente, et Euro 4, ce qui change. Alors il y a beaucoup de choses qui changent. C'est un gros changement. Déjà, c'est plus la même méthode de test. Au préalable, c'était une méthode de 20 minutes sur un banc avec un moteur chaud. Un moteur chaud, ça pollue moins. Et donc il avait chauffé pendant une minute et demie. Mais ça joue beaucoup au niveau des rapports de test. Et donc, on simulait un rapport de façon très simplifiée, un parcours urbain à vitesse très réduite et un parcours routier avec une vitesse qui ne dépassait pas 120 ou 90 pour les petites cylindrées. Et donc, avec le passage à la norme Euro 4, on change tout, on part d'une feuille blanche, on est remplacé par un nouveau procédé, et là, on démarre un cycle qui est plus long, 30 minutes, et départ à froid.
Et c'est là qu'avec un moteur le pollue le plus.
Alors c'est là que le moteur pollue le plus. Alors il est divisé en trois parties sans interruption. Et les conditions de. C'est toujours sur un banc, mais les conditions sont bien plus variées et bien plus proches de la réalité d'une utilisation que l'était le test simplifié précédent. Donc il est beaucoup plus dur à passer. Et concrètement, les valeurs maximales d'émissions d'échappement, hein, donc en fait, ils regardent le monoxyde de carbone pour les motos, ils regardent les hydrocarbures et l'oxyde d'azote. Hein, les particules, c'est uniquement pour les diesels. Ces valeurs-là, par rapport à Euro 3, elles doivent être divisées par 2. C'est énorme. Et le protocole est complètement différent. Maintenant, avec Euro 3, les constructeurs... Euro 3, c'était 2006. Avec Euro 3, les constructeurs, en mettant l'injection et un pot catalytique, ils s'en sortaient.
Ils s'en sortaient bien, oui.
Ouais. Là, maintenant, ça devient difficile de pas avoir de refroidissement liquide, justement à cause du départ à froid. On y arrive avec des sondes lambda, avec des catalyseurs 3 voies et des injections de l'air dans la soupape d'échappement.
C'est pour ça qu'on a vu, aussi les nouvelles Triumph Level Game qui est avec un radiateur qui est coincé entre le double berceau. Là.
Ouais, voilà, ils sont passés au liquide.
Parce qu'apparemment, ça passait pas. Là.
Voilà.
Mais est-ce que c'est pas avec le logiciel Volkswagen qui vont faire la nouvelle norme?
Alors, j'en parlais après parce qu'en fait.
Daniel, on t'a pas autorisé à parler quand même.
Mais non, mais c'est vrai qu'on s'est bien gossé tout ça, mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que les ingénieurs, leur boulot, c'est de faire passer les tests et que la moto accepte les tests. Point. Le reste, on s'en fiche. Du coup, Euro 4 est devenu aussi beaucoup plus compliqué parce que, il y a une norme de bruit à 80 décibels, il y a l'ABS obligatoire, il y a ce fameux test dont je parlais au début de l'émission d'évaporation, là, donc on n'a plus le droit d'avoir une mise à l'air directe du réservoir.
Alors ça, c'est incroyable, ça.
Il faut un système de filtration par charbon actif.
Ça passe par un filtre charbon.
Alors, quand la moto ne fonctionne pas, c'est charbon actif,
ouais.
Un filtre charbon actif. Et quand la moto.
Ah, il y a une espèce de vanne alors qui
ouais, il y a une vanne. Et quand tout ça pour une mise à l'air. Et quand la moto fonctionne, il faut recycler dans l'admission d'air.
Mais ça existe déjà en Californie, ils sont obligés d'avoir des filtres charbon actif
d'accord.
Pour tout le remplissage. Ouais.
Et donc, la grosse nouveauté aussi, c'est que la moto, elle doit réussir le test 6 fois. C'est pas juste un one shot, c'est 6 fois. Et il faut représenter la moto après 20 000 km, et elle doit toujours respecter les normes. Donc c'est vachement.
Un gagrouchek. Bah voilà. On peut passer le test.
Donc c'est quand même complètement.
Non, tu comprends tout, Volkswagen. Tu veux pas. Faut dire. Ouais.
Alors, quelles sont les conséquences de tout ça?
Ah, ça enlaidit les motos.
Ça augmente le prix. Ça demande un travail de recherche et de développement, beaucoup d'argent investi, c'est un lourd investissement, et il faut qu'il soit amorti d'ici 2020, parce que 2020, on a une nouvelle norme qui arrivera, c'est Euro 5.
Ah bon?
Et Euro 5, on divise par deux tout.
Ah oui?
Et il faudra à ce moment-là, en plus de l'ABS, il faudra l'antipatinage, et il faudra un logiciel qui détecte toute anomalie de l'injection et qui bloque le moteur s'il y a une anomalie d'injection, pas que tu puisses continuer à polluer en roulant.
Moi, dans ce studio, il y a le chevalier noir qui arrive et qui dit « Moi, je passe la norme
au la main.
Euro 6
ouais, ». Voilà.
C'est Christophe avec son scooter électrique.
Son vélo.
Parle pas de malheur.
Le chevalier noir.
Donc, au niveau conséquence, ça fera moins d'argent pour travailler sur des nouveautés, hein, forcément, puisque c'est l'argent qui va aller là-dedans. Le coût des motos va forcément s'en ressentir. Hein, il va falloir mettre l'ABS, il va falloir faire de la recherche, et puis ça va coûter de l'argent. Les modèles, il y a des modèles qui vont disparaître parce que ça va être trop coûteux pour les adapter. Il risque, en 2020, il risque de plus y avoir de moteur à refroidissement air. Hein, donc ça va être chaud pour les Harley, les Guzzi.
Ah, les Harley.
Hein, voilà.
c'est Daniel. C'est Daniel.
Alors
qui
pourquoi? Parce que un moteur à refroidissement liquide, ça a une température uniforme et c'est contrôlable par un calorstat. Donc on peut le faire chauffer plus vite en faisant pas fonctionner le circuit et puis ensuite de façon plus homogène. Et en plus, un moteur à refroidissement liquide, ça émet moins de bruit. Ah oui. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus chaud à passer pour les moteurs à air. Et donc on a pas mal rigolé de Volkswagen, c'est vrai, mais les ingénieurs, en fait, ils doivent faire passer les tests. Donc là, ce qui se passe, c'est pareil. D'ailleurs, dans le temps, je me souviens, les normes de bruit. On avait tous, avec les pots, il fallait passer les normes de bruit, on avait tous des cartographies avec un creux pile-poil au régime où on passait le test. Ça ne choquait personne. Ils n'ont pas fait grand-chose d'autre, hein, Volkswagen. Et finalement, c'est ça. En fait, il faut que ça passe. Donc on fait des petits artifices pour que ça passe. Mais en vrai, la moto, c'est un moteur, ça pollue.
Voilà.
Voilà quoi. C'est, il faut pas se leurrer.
Très bien, très bien. Bon.
Donc voilà, les réjouissances pour. Donc en fait, ces motos elles vont être peut-être moins sympas. Donc
déjà, Benoît, il était pas quand il écoutait Guy.
C'est vrai. Il disait que je vais avoir du boulot.
Mais là, il est complètement sur la table.
On peut s'y mettre, les gars. Allez-y.
T'imagines le nombre de manifs que tu vas devoir organiser cette année.
Ouais.
Bon, c'est tout, Nico?
On a fait le tour.
On va passer avec Daniel Torel. Alors, je sais plus si je m'adresse au président ou au vice-président de la VF.
Non, jusqu'alors, vice-président.
Tu as encore la feuille vice-président. Mais je sais que tu gagnes une sacrée bataille entre le vice-président et le président de la FEDE. Hein. Hein, je pense que tu veux devenir le président.
Pas du
tout. Comme tout le monde.
Pas du tout.
Il est taquin ce matin.
Oui, monsieur est taquin. Ouais. Mais c'est une histoire de code, je crois.
Bon, allez, vas-y, dépêche-toi, il ne reste pas beaucoup de temps.
Bon, écoute, je vais faire comme d'habitude synthétique. Bonjour à tous. Hein. Christine, pour ton information, puisque tu parles d'un sujet qui est très sensible chez nous aussi, c'est la pratique féminine au niveau du monde de custom. Mmh. Sache quand même qu'à la FBF, on a un peu plus d'un millier de pratiquantes sur des gros cubes partout en France avec une cinquantaine de délégués. Enfin, ceci étant dit. Voilà. Alors, l'anniversaire de la Fédération, nos 5 années, cette nuit au Balajo, salle mythique s'il en est, dans un quartier très particulier, puisque c'est là où on a vu émerger les premiers clubs bikers dans les années 60, pour les bandes de Crimée, etc., etc. Donc, grosse fête avec tous les membres pour présenter donc les vœux de la Fédération, les ambitions, les objectifs, mais surtout le côté festif qui nous anime. Cerise sur le plumeau, comme dirait l'autre, c'est le parking quand même privé de la Fédération, sur la place de la Bastille, gardienné, etc., par tous nos membres.
Ils ont des sous, là.
Donc, non, pas du tout. Ce ne sont que
ils font.
Ce sont des bénévoles. Des gens convaincus.
Je sais pas comment vous faites pour avoir des trucs comme ça, vous, là.
Tout simplement des convictions, et puis on s'arrange.
À la braderie, nous aussi, on garde le parking.
Oui, mais c'est un petit.
Donc voilà, grosse fête.
C'est pas la Bastille.
Grosse fête, comme on sait faire donc chez nous. Et ça, c'est important parce que c'est une de nos valeurs qu'on continue à faire perdurer, à développer, parce que dans ce monde d'individualiste ou que...
Alors qu'est-ce que vous pensez, vous, à l'AFBF, de toutes ces mesures là, qui... Vous allez avoir le petit gilet jaune dans votre poche?
Oui, bien sûr.
Voilà, vous
bien
êtes rebelle, donc vous ne le porterez pas. Enfin, vos...
Ils n'ont pas dit la taille du gilet, si?
Ils n'ont pas dit la taille.
Non, non. On peut en avoir un tout petit.
Ah, non. Ouais, mais on peut avoir un petit, un porte-clés.
Oui, oui. Alors écoute, nous, comme nos amis de la FFMC, on s'est battu contre cette ignominie, je dirais, vestimentaire, visuelle, etc., qui nous fait confondre avec les gens qui faisaient le traitement des résidus urbains, n'est-ce pas? Donc, bien évidemment, on va garder notre côté un peu rebelle et on verra en temps utile ce qu'on fera.
Bon, vous, les gants, c'est pareil?
Les gants, nous, on roule avec des choses un peu étranges. Donc, l'homologation, tant que l'homologation sera soumise à des critères économiques et qui ne correspondent pas à une pratique de biker, enfin, de motocycliste, etc., on n'en a rien à faire. Honnêtement, on continuera à rouler comme on a envie de rouler. Parce que demain, avec tout ce qu'on a entendu sur les hommes et tout, je crois qu'il n'y aura plus de moto, il n'y aura plus de voiture. Je ne sais même pas s'il y aura encore des humains sur Terre. D'accord. Enfin, il faut se poser la question.
Ah, ça y est, alors Benoît, ça y est, par terre.
Voilà.
Et puis, bon, la limitation de puissance, vous vous en foutez, vous roulez avec des Harley, donc ils sont chevaux, vous en avez rien à foutre.
Harley, c'est une marque, j'avoue que c'est pas tellement. C'est pas une marque qu'on cherche à promotionner. Bon, ouais. Non, ce qui nous intéresse, c'est les customs et surtout les artisans qui les construisent. Nous, les marques, etc.
Oui, vous êtes bikers.
C'est pas notre truc. Voilà. Donc, on préfère avoir nos artisans qui savent encore travailler. Je les plains parce que, en gros, on va avoir à peu près 60 000 artisans qui vont disparaître.
Ah, les motos modifiées,
donc
c'est
à peu près 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, j'en passe des meilleurs. Tout ça pour dire que on sera là quand même pour défendre aussi nos intérêts, les intérêts aussi des pratiquants, enfin des bikers de France, bien évidemment, et aussi tous les gens qui ont du bon sens. Et il semblerait que ce sont des notions qui sont très très éloignées des gens qui décident on ne sait où, on ne sait quoi, ce qu'on appelle le crâne d'œuf. Hein, désolé, mais voilà. Donc, on se reverra tous ensemble pour notre assemblée générale le 18 mars. Qui se passe donc sur la région de Métrennes. Oui, tout à fait. Grand concert, on accueille tout le monde. Enfin, ceux qui veulent rencontrer les bikers, la fédération, tout ce qu'on fait, ce qui se passe, etc., seront les bienvenus. Voilà.
Bien. Merci Daniel. Bon, tout va bien à la FBF.
Hein. Tout va bien.
Alors, FBF, c'est la fédération des bikers de France. Attention. Hein. Voilà. Bon, on va terminer cette émission avec le calendrier des motoclubs qui est sorti donc en primeur vendredi.
Vendredi, au petit badaud.
Hein.
Au petit badaud.
Il y avait du monde. Hein.
Ouais. Il y avait du monde. Il y a beaucoup de motoclubs qui sont venus. Effectivement, participer à cette sortie officielle du calendrier qui était très attendue. J'ai commencé la distribution hier au village moto, par exemple, à Ronchin, et plusieurs motocyclistes m'ont dit il y a plein de gens déjà qui sont venus réclamer. Alors, c'est quand qu'il arrive ce calendrier? 8 janvier, c'est pas mal quand même pour un calendrier. Vu le boulot, c'est toujours un 40 pages, 100 grammes. Cette année, il a été fait en rotative, et ce qui fait que les couleurs elles pètent davantage. Quoi. C'est vraiment ça claque bien. C'est joli, c'est un bel objet. C'est un bel objet grâce notamment aux illustrations réalisées par Emeline Suri, une jeune artiste qui a fait les Beaux-Arts d'ailleurs ici dans la région, et qui peint à l'aérographe. Donc pour nous, elle a fait une dizaine d'illustrations sur le thème de la moto. Et elle les a peints sur des planches de bois que ensuite le studio photo XB1204 a photographié pour pouvoir les numériser de façon à les mettre dans le calendrier. Et d'ailleurs, on pourra faire un jeu. On demandera aux...
Alors moi, j'ai fait depuis hier.
Au motard de retrouver.
Et je demande, comme le thème, c'est quoi? C'est la moto, le cinéma, la moto dans le cinéma. Donc c'est des pages de films, des images.
Des scènes de films.
Et donc. Et c'est marrant parce que...
Tout le monde ne les reconnaît pas.
Non, il y a une culture donc motocycliste qui est un peu disparue.
Mais il y a des vieux films aussi qui sont
présentés. Il y a des vieux films. Ils m'ont dit moi-même j'étais pas né. Alors oui, mais d'accord, mais c'est pas non plus une raison.
Voilà, donc on en profite pour remercier tous les annonceurs qui nous font confiance, parce que c'est un calendrier gratuit tiré en 35 000 exemplaires, distribué donc dans tous les lieux fréquentés par les motards de la région Nord-Pas-de-Calais, mais aussi des départements limitrophes, et notamment dans la zone frontalière de la Belgique. Donc c'est grâce à eux, parfois dans un contexte économique pas toujours facile, donc faut quand même, ils nous font confiance, et c'est important de le dire. Mais il faut aussi remercier les motoclubs qui nous donnent l'info. On en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos, notamment grâce au Facebook
Facebook, mais aussi à tous les moyens qu'on leur met à disposition pour nous faire remonter l'info. Et il y a des moments où on a dû faire des choix. On a dû, par exemple, enlever les logos des motoclubs, enlever leurs affiches parce que ça rentrait plus, quoi. Il y avait plus de place. Donc, on est victime de notre succès. Et donc, la solution pour l'année prochaine, c'est de passer à 48 pages. Donc, on a trouvé normalement un imprimeur qui nous permettra de faire 48 pages et de pouvoir mettre toutes les infos que nous donneront les motoclubs qui continuent à nous accompagner. Et
tu vois, je suis passé tout de suite en novembre-décembre, comme ça on a passé vite fait 2016 en une heure. Et donc je regarde la
Mère Noël.
La Mère Noël, hein, qui est traditionnelle, hein, c'est une tradition maintenant dans le calendrier hein, de mettre la Mère Noël. Et il y a toute une histoire.
Sinon très rapidement, je voulais dire aussi que ce calendrier qui est distribué dans tous les lieux fréquentés par les motards est aussi en téléchargement sur notre site grâce à notre ami webmaster Nico qui est ici présent, voilà. Et on peut aussi le télécharger directement sur la page d'accueil du site de Kikinkou. Vous tapez K1C et puis vous tombez directement dessus.
Très bien, merci Luc. On va terminer cette émission. Le générique arrive. J'entends le générique qui arrive tout de suite. Là, voilà. Merci Benoît. Je vais te faire un peu de bouche à bouche parce que là, t'es un peu.
Non, ça va.
Ça va aller.
Non, je vais m'en occuper.
Tu vas m'en occuper.
C'est de l'occupation. Mais c'est de la bonne. Non, pas de soucis. On compte sur
tu
vous.
Prévois combien de manifs
au moins
une bonne cinquantaine sur l'année.
Il y a du boulot. Une par semaine, c'est bon, ça fait 52. Allez, go.
Merci, Luc, pour cette explication du calendrier. Merci, Daniel. Alors, bonne vie aussi à la BF. Après tout,
tout va bien.
Vous voulez en deux roues aussi. Hein.
Oui,
voilà,
oui.
Hein. Merci Jean-Yves qui est là-bas dans le fond du studio. Nico, merci pour la valeur.
Oui,
c'est compliqué, c'est normal. Hein. Va falloir revenir un peu dessus. Alors là, et puis Christophe, alors, toi pas de problème, les normes, de toute façon, tu roules à l'électron.
Voilà, hein. Quand il veut bien.
Quand il veut bien. Je sais. Voilà, c'est le problème. Merci Christine.
Bonne lecture.
Bonne vie aussi. Bonne vie dans le magazine de Femmes et Motards. Voilà. Et puis je dirais le dernier mot donc à notre ami Lolo.
Au revoir.